Je vous propose ce matin d'entendre un conte des mille et une nuits que l'on trouve dans le deuxième livre des Chroniques. Dans le deuxième livre des Chroniques, qui est une sorte de duplication des livres des rois, au chapitre 9, je vais vous lire les versets 1 à 12. Ça pourrait presque commencer par « Il était une fois ». La reine de Saba. Et la reine de Saba entendit parler de la réputation de Salomon. Elle vint à Jérusalem pour l'éprouver par des énigmes. Elle avait une suite très importante et des chameaux portant des aromates, de l'or en grande quantité, des pierres précieuses. Elle vint auprès de Salomon et lui dit tout ce qu'elle avait dans le cœur. Salomon lui expliqua tout ce qu'elle disait, et il n'y avait rien de caché pour Salomon qu'il ne pouvait lui expliquer. La reine de Saba vit la sagesse de Salomon, la maison qu'il avait bâtie, les mets de sa table, l'habitation de ses serviteurs, les fonctions et les vêtements de ceux qui étaient à son service, ses échansons, ceux qui s'occupent du vin par exemple, leurs vêtements, les marches également par lesquelles on montait à la maison de l'Éternel. Et elle en perdit le souffle. Et elle dit au roi, « C'est donc vrai ce que j'ai appris dans mon pays au sujet de tes paroles et de ta sagesse ? Je ne croyais pas ce qu'on en disait avant d'être venu et d'avoir vu de mes yeux. » Et voici qu'on ne m'a pas raconté la moitié de la grandeur de ta sagesse. Tu surpasses ce que ta réputation m'avait laissé entendre. Alors heureux, heureux tes gens, heureux tes serviteurs qui se tiennent continuellement devant toi et qui entendent ta sagesse. Béni soit l'Éternel, ton Dieu, qui t'a été favorable et qui t'a placé sur son trône comme roi pour l'Éternel, ton Dieu. C'est parce que ton Dieu aime Israël et veut le faire subsister pour toujours qu'il t'a établi roi sur lui pour que tu fasses droit et justice. Elle donna au roi 120 talents d'or, une très grande quantité d'aromates et des pierres précieuses. Il n'y a plus eu d'aromates tels que ceux que la reine de Saba donna au roi Salomon. Les serviteurs de Huram, qui était un roi du côté de Tyr en Phénicie, les serviteurs de Huram et les serviteurs de Salomon qui apportèrent de l'or d'Ophir amenèrent aussi du bois de santal et des pierres précieuses. Le roi fit avec le bois de santal des voies d'accès pour la maison de l'Éternel et pour la maison du roi, ainsi que des harpes et des luttes pour les chantres. On n'en avait pas vu de semblable auparavant dans tout le pays de Juda. Le roi Salomon donna à la reine de Saba tout ce qu'elle désira, ce qu'elle demanda, plus qu'elle n'avait apporté au roi. Puis elle s'en retourna pour elle, dans son pays, elle et ses serviteurs. Je vous propose d'ouvrir votre recueil de chants, louanges et prières au cantique 400. Nous allons chanter les strophes 1, 2 et 3 de ce cantique, et nous nous levons pour donner toute notre démesure à ce chant. Éternel, notre Dieu, aide-nous à nous ouvrir à ton esprit pour que nous soyons attentifs à ta parole, disponibles à ton évangile. Derrière les mots que nous avons entendus, donne-nous de discerner ta parole de vie, ta parole pour notre vie. Donne-nous d'entendre ton évangile et de le mettre en pratique. Chers frères et sœurs, nous venons d'entendre le récit de cette femme étrangère qui vient éprouver avec des énigmes le roi Salomon, un homme blanc d'une soixantaine d'années peut-être, héritier de David. Et le texte raconte qu'elle lui a dit tout ce qu'elle avait dans le cœur. Et j'aimerais voir avec vous ce matin en quoi l'énigme, le thème de l'énigme, a sa place dans notre vie. Commençons par Salomon. Salomon, ici, est une figure du croyant. Et il est confronté à deux choses qui n'en sont qu'une, l'étrangeté et l'énigme. Une énigme. Vous avez forcément déjà été confronté à une énigme, ne serait-ce que dans les cours de récréation, entre quelques blagues, il y a toujours de la place pour une énigme, notamment celle du sphinx, qu'est-ce qui a quatre pattes le matin, deux à midi et trois le soir. Quand on est face à une énigme qu'on n'a encore jamais entendue, on est face à l'inconnu, on est face à quelque chose qui nous est étranger, qu'on ne comprend pas vraiment. Il y a quelque chose de semblable, on comprend les mots, mais ces mots mis ensemble forment quelque chose d'étonnant, d'étranger, de surprenant. Et l'énigme, c'est quelque chose qui nous résiste. Il est rare qu'on trouve immédiatement la solution d'une énigme, comme il est rare qu'on arrive à résoudre une enquête policière dès les premières pages. Par exemple, comment faire passer un disque de 12 cm de diamètre à travers un carré dont la plus longue longueur, la diagonale, ne fait pas plus de 9 cm. Imaginez un peu que vous soyez dans cette situation où il faut faire passer ce disque à travers ce carré. Vous voyez immédiatement que, même si vous prenez la diagonale, vous êtes tout de suite coincé. Alors à partir de là, on peut se dire, bon, ben voilà, ça ne marche pas, quoi. passe à autre chose. Mais Salomon, lui, accueille cette personne énigmatique, cette personne étrangère, la reine de Saba. Pour nous, une rencontre comme celle-ci pourrait être de l'ordre de l'impossible. De même que cette énigme peut nous sembler insoluble. Déjà, l'énigme nous montre que nous n'avons pas le pouvoir sur toute chose. L'énigme nous ramène à une meilleure considération de nous-mêmes. Nous ne sommes pas maîtres de toute chose. Et tout ne se passe pas immédiatement tel que nous le voudrions. La reine de Saba est un personnage tout à fait énigmatique. La vérité est qu'on ne sait rien sur elle. On suppose qu'elle vient de la péninsule arabique, mais à vrai dire, ce n'est qu'une hypothèse. Quant à la figure historique de la reine de Saba, je vous montrerai tout à l'heure que tout porte à penser qu'elle est là comme une figure littéraire pour construire le conte. L'énigme, c'est elle. C'est la reine de Saba qui est la véritable énigme. Le premier verset le dit sans aucun doute. La reine de Saba vient avec des énigmes pour éprouver Salomon. Et que raconte-t-elle? Ce qu'elle a dans le cœur. C'est la reine de Saba qui est elle-même l'énigme. Elle est l'énigme comme nous le sommes nous-mêmes. Nous sommes chacun une véritable énigme. Cela fait quelques années déjà que nous nous connaissons, mais nous restons les uns pour les autres des énigmes. Et si vous regardez comme vous le faites ceux qui sont à vos côtés, vous allez y voir un frère, une sœur, ou peut-être y aura-t-il un père devant vous. Nous sommes et nous restons des énigmes. Il y a toujours au moins une part de nous-mêmes qui reste énigmatique, même pour notre conjoint, même pour les gens qui pourraient penser nous connaître par cœur. Une personne ne correspond jamais tout à fait à l'idée qu'on s'en fait. Une personne reste toujours mystérieuse, énigmatique. Cela tient au fait que nous avons une vie intérieure qui est en constante évolution. Et vous le savez mieux que quiconque, puisqu'il paraît que l'adolescence est le moment où le bouillonnement est exacerbé. Et d'ailleurs, ça change tellement en vous que vous ne vous reconnaissez pas parfois. Nous avons, même un peu plus âgés que vous, plein de choses aussi dans le cœur qui remuent, à la manière de cette reine de Saba. Ces choses, ce sont nos idées, nos passions, nos révoltes, nos convictions, nos coups de cœur, nos coups de griffe. Et tout cela évolue constamment, du moins pour les gens vivants, ceux qui ne sont pas figés à un état définitif de leur histoire. Nous ne cessons d'évoluer parce que nous faisons des expériences. Nous faisons comme Salomon des rencontres qui nous changent, qui nous permettent d'évoluer. Et donc Salomon fait bon accueil à cette reine de Saba et à tout ce qui occupe son esprit. Il fait bon accueil à l'étrangère qu'elle est, figure de toutes les étrangetés, de tout ce qui ne nous ressemble pas, de tout ce qui ne rentre pas dans les critères qui nous font dire « voilà ce que j'aime », tout ce qui est pour nous une énigme. Et nous pouvons penser que c'est cela qui explique la sagesse de Salomon. Si on dit que Salomon est sage, c'est peut-être parce qu'il a justement cette capacité à faire bon accueil aux énigmes, à faire bon accueil à l'étrangeté, à ce qu'il ne connaît pas encore, à ce qu'il ignore tout à fait même. Et sa renommée, par-delà Jérusalem, par-delà les textes bibliques, tient peut-être à cela. Salomon est un homme curieux de la vie. Un homme qui a les yeux qui pétillent. Un homme qui s'émerveille de ce qu'il voit. Un homme qui est un peu comme la posture première du philosophe, l'étonnement. Il s'étonne de ce qu'il voit. Et plutôt que de s'en détourner, il part explorer ce qu'il accueille. C'est une personne qui accueille les énigmes au lieu de les laisser à la porte de son palais. Il ne cherche pas à se protéger de l'étrangeté, au contraire, il se dit qu'il y a là une opportunité à saisir. Salomon est sage parce que sa sagesse ne repose pas seulement sur ses seules connaissances. Bonne nouvelle pour vous, vous n'en finirez jamais de votre catéchèse, car il n'est pas un moment de notre vie où il faudrait se contenter de ce que l'on sait déjà. Réjouissez-vous, catéchumène fidèle. Mais accueillir ne suffit pas. Ok, très bien, nous avons notre carré, nous avons notre disque. Bon, très bien, on n'a pas envoyé cela balader. Bon, maintenant, on en fait quoi ? C'est bien gentil de dire qu'on accueille l'étrangeté, on accueille les énigmes, mais si c'est pour les stocker dans un coin ou à la cave, comprenez que ça présente un intérêt modéré. Eh bien, la rencontre de Salomon avec la reine de Saba est précisément une rencontre qui ne va pas de soi et qui nous aide peut-être à comprendre que faire face aux énigmes. La reine de Saba et le roi Salomon, ce sont deux extrêmes qui se rencontrent. Deux personnes qui, sur le papier, n'ont rien à faire ensemble. Car le roi d'Israël n'a rien à faire, en principe, avec une femme étrangère. Car si la réputation de Salomon est la sagesse, la renommée des femmes étrangères est l'idolâtrie. Et donc, en principe, le roi d'Israël n'a pas à commercer, n'a pas à fréquenter la moindre femme étrangère. Mais Salomon n'a rien à faire des réputations. Un peu plus tôt, il avait déjà reçu deux prostituées qui se disputaient un enfant. Pour Salomon, il n'y a pas de mauvaise réputation. Je vous le disais, il y a des opportunités à saisir, des occasions qui se présentent, des énigmes à explorer. Rien n'est odieux aux yeux de Salomon. Tout peut être l'occasion d'une découverte, d'un enrichissement, d'une progression. Il n'y a pas de mauvaise rencontre. Il y a des rencontres qui peuvent finir mal, mais il n'y a pas de mauvaise rencontre a priori. C'est comme ce carré, dont la diagonale fait moins de 9 cm, alors que le diamètre fait 12 cm. Avouez que c'est quand même pénible, hein ? Bon, eh bien, vous voyez cette feuille ? On n'est pas obligé de la laisser en l'état. On n'est pas obligé de considérer que la vie n'a que deux dimensions. On peut très bien la plier et rejoindre les extrêmes. Les deux points opposés maintenant se touchent. Oh, faut pas trop rêver, hein, ça passe toujours pas. Hein. Mais c'est un pas. La rencontre de Salomon et de la reine de Saba, c'est la rencontre de ces deux extrêmes qui, sur le papier, n'avaient rien à faire ensemble. Le texte biblique parle de cela dans sa couche hébraïque. C'est le verbe « nagad » qui est utilisé pour évoquer le fait que Salomon explique ce que raconte la reine de Saba. « Nagad », c'est un verbe qui signifie à la fois « révéler », mais aussi « être en opposition ». C'est un mot que vous avez entendu sans le savoir avec le récit d'Adam, parce que Adam est donc créé, et puis on lui cherche une aide qui va pouvoir être un vis-à-vis, qui va être néged, qui va être à la fois en opposition, mais aussi en harmonie. Et donc, l'explication ici vient d'un face-à-face, qui n'est pas un face-à-face comme des chiens de faïence qui se regarderaient fixement, mais comme une sorte de tension qui permet de passer par-dessus ce qui sépare les deux protagonistes. Ici, les deux points opposés entrent en contact, de même que Salomon et la reine de Saba entrent en contact, de même que ce qui peut nous sembler éloigné sont mis en contact. Exemple typique, pour savoir combien il faut de molécules de cuivre bout à bout sur un fil de cuivre de 20 cm, eh bien, il faut à la fois de la physique ou de la chimie pour savoir quel est le diamètre d'une molécule de cuivre. Et puis, il faut aussi connaître les multiplications ou les divisions pour pouvoir diviser 20 cm par les 2,16 nanomètres du diamètre de la molécule de cuivre. La mise en relation. Voilà le secret de beaucoup de réussites. Mettre ensemble des savoirs qu'on imaginait distincts. Ne pas laisser la théologie d'un côté et l'économique de l'autre. Ne pas laisser d'un côté la gauche de la paroisse et la droite de la paroisse, mais les mettre ensemble et les faire travailler. Ne pas mettre d'un côté la convivialité de la grande sacristie et la partie culturelle du comptoir librairie dans une sorte de face-à-face stérile, mais avoir l'occasion de joindre les deux bouts. Avec Salomon et la reine de Saba, ce sont deux univers qui se rejoignent, qui se rencontrent, qui se mêlent. Nagad, je le disais, ce n'est pas une opposition figée, statique. Il n'y a pas d'un côté les orthodoxes et de l'autre côté les libéraux. Il n'y a pas d'un côté les femmes et de l'autre côté les hommes. Il n'y a pas d'un côté, oui, il y a un peu les jeunes d'un côté et tous les autres de l'autre, mais vous allez bouger tout à l'heure. Il y a une coopération entre les différentes parties qui peuvent être différentes dimensions de notre vie. Nous avons plein de choses en nous. Et ce qu'il convient, c'est de pouvoir les relier, de pouvoir les rejoindre, de pouvoir les coordonner, de faire en sorte que tout ce qui est en nous participe à notre vie commune. L'ensemble coopère à la résolution de l'énigme. Il y a deux partenaires qui vont travailler ensemble. Il n'y a pas d'un côté Salomon qui saurait et la reine de Saba qui ignorerait tout. Il y a une interaction entre les deux. Chacun est pris au sérieux comme cette étrangère l'a été. Salomon ne l'a pas humilié. Il ne l'a pas pris de haut. Moi non plus, je ne vous prends pas de haut. Je fais lever votre regard. Il accueille l'énigme. Il rejoint la reine de Saba dans son univers et avec elle, il conjugue ses forces, ses talents. Alors, au terme de cette rencontre, la reine de Saba et le roi Salomon ont élargi leur horizon. Et voilà le bénéfice de cette histoire. Nous allons voir comment cette histoire raconte l'élargissement de l'horizon de la reine de Saba et du roi Salomon. C'est le troisième point que je relève. Accueillir l'énigme, joindre les extrêmes et élargir l'horizon. La reine a ouvert les yeux grâce à cette rencontre avec le roi Salomon. Elle voit soudainement la cour, non plus seulement selon la réputation qu'elle avait en tête, mais telle qu'elle est. Elle a accès au réel. Elle voit les choses non plus telles qu'elle les imaginait, mais telles qu'elles sont. Et le roi, lui, a reçu des cadeaux. Des cadeaux parmi lesquels des aromates uniques en leur genre, du bois de santal qui permet de faire des instruments qu'on n'avait encore jamais vus jusque-là. Autrement dit, le roi Salomon gagne lui aussi en qualité de vie. Et puis, un arc diplomatique semble se tendre qui, si la reine de Saba venait d'Arabie, irait jusqu'à la Phénicie, où se trouve Huram, le roi dont il est question dans ce texte. Voyez, l'énigme a un aspect tout à fait positif sur les différents protagonistes. Chacun y trouve plus que son compte, au bout du compte. Il y a une sorte d'élargissement. Eh bien, comme il ne faut pas s'en tenir aux deux dimensions de la vie, nous avons, nous aussi, le droit d'élargir notre carré. Et pourquoi ne pas l'élargir ainsi? Je n'ai fait qu'élargir les côtés. Moyennant quoi, notre disque passe. L'élargissement de l'horizon. Ça sert à ça, la vie de l'Église, en fait. Et ce n'est qu'un laboratoire du reste de la vie. On peut avoir une vision étriquée de la vie, confinée à ce périmètre ou à cette diagonale. Mais on peut aussi considérer qu'il y a des éléments à mettre en relation et que cette mise en relation peut conduire à un élargissement qui permet d'avoir finalement un panel de vie bien plus large. Qu'est-ce à dire ? Cela signifie que Nous sommes dans une situation où la transcendance n'est peut-être pas à chercher dans la verticalité. Quand nous disons Dieu, comme le fait la reine de Saba, quand nous pensons religion, mystique, quand nous pensons spiritualité, nous pensons toujours moi tout petit ici et Dieu tout grand là-haut. Mais il est peut-être possible avec ce récit d'envisager la transcendance dans une autre dimension, non plus forcément la verticalité, mais peut-être l'horizontalité. Nous le voyons ici, la transcendance, le divin, s'éprouve dans les yeux de la reine de Saba, dans l'exploration du vivant, quand elle parle cœur à cœur avec Salomon, dans cette interaction positive entre deux personnes, quelque chose de l'ordre de la transcendance est en train de se jouer. La reine de Saba est en train d'élargir son horizon, elle élargit l'espace de sa tente, pour reprendre une formule biblique. Et c'est à ce moment-là qu'elle parle de Dieu. C'est à ce moment où elle a vu la qualité du palais de Salomon qu'elle parle du divin. Et pour bien comprendre qu'il s'agit d'un conte, il suffit de comparer cette version du livre des Chroniques au livre des Rois. Les valeurs ne sont pas les mêmes. Les montants ne sont pas les mêmes. On parle d'autres chiffres. Et donc, peu importe la vérité historique de ce texte, ce qui compte, c'est la réalité à laquelle ce texte nous ouvre. Et ce texte nous ouvre à cette réalité comme cela se passe entre la reine de Saba et le roi Salomon, en n'en restant pas simplement à la surface des choses, non pas deux dimensions de la vie, non pas simplement une feuille, mais nous donnons de l'épaisseur à la vie. Et c'est au moment où elle a le souffle coupé que cela se produit. Intéressant cette histoire de souffle coupé. En fait, le texte hébreu dit qu'elle n'avait plus de souffle. Et le souffle, ruar en hébreu, c'est l'esprit. Elle n'avait plus d'esprit. Sous-entendu, elle n'avait plus son esprit. Sous-entendu, elle avait donc de la place pour recevoir un autre esprit que le sien. Sous-entendu, elle avait désormais de la place pour accueillir d'autres idées que celles qu'elle avait jusque-là. De la place pour un autre savoir, une autre connaissance. Le texte grec de la Septante traduit par « elle était hors d'elle-même », expression que l'on retrouvera curieusement, mais ce n'est pas un hasard, pour le récit de Pentecôte, l'effusion de l'esprit et cette remarque au sujet des apôtres, « ils étaient comme hors d'eux-mêmes ». Eh bien, c'est cela, élargir son horizon, être hors de soi, exister, se tenir là où nous sommes, mais aussi là, et là, et là. C'est ça, la transcendance horizontale. Et comme j'avais eu l'occasion de vous le dire à un culte de Pentecôte, justement, les cieux, en hébreu, shamaïm, ce n'est que le pluriel de là et là. Ça signifie que les cieux, en hébreu, ne sont pas envisagés comme cet espace qu'il y a au-dessus de notre tête, mais comme cet horizon qui s'ouvre, qui s'élargit. Cette terre promise qui est devant nous et qui nous donne plus à vivre. Bref, l'expérience du divin, c'est lorsque nous arrivons à franchir des barrières qui étaient réputées infranchissables, comme ce petit carré réputé infranchissable pour ce grand disque. L'expérience de Dieu, ici, se fait à travers la mise en relation avec un environnement élargi. La reine de Saba le dit bien. Voici qu'on ne m'avait pas raconté la moitié de la grandeur de ta sagesse. Tu surpasses tout ce que ta réputation me laissait entendre. Il y est clairement question de transcendance. Il y a aussi une transcendance par une profession de foi qu'elle fait. Elle dit que Salomon a été placé sur le trône de l'Éternel. C'est une profession de foi. Et puis c'est en même temps une manière de dire que la royauté ne dépend pas de Salomon seulement. La royauté est renvoyée à plus qu'un homme, même plus que Salomon. Dire que la royauté est rapportée à Dieu, à l'Éternel, c'est une façon de dire que la royauté, la justice, le droit, ce ne sont pas des états, ce sont des perspectives. Cela dépasse toujours les institutions qui incarnent ces valeurs-là. Bref, nous découvrons ce que l'énigme a de bon. Et donc, nous ne saurions trop vous encourager à partager toutes les énigmes que vous possédez. Et de ce point de vue-là, les textes bibliques sont des énigmes. Les paraboles sont des énigmes qui nous aident à penser plus loin, plus grand, plus large, meilleur. L'énigme nous fait accéder à d'autres dimensions de l'histoire, d'autres dimensions de l'existence. Et voyez-vous, la grâce qui vous est faite, une grâce qui, pour vous, ressemble peut-être parfois à un mauvais coup, c'est qu'il vous est donné de rencontrer régulièrement des énigmes vivantes. Oui, des personnes qui ne partagent pas vos préoccupations, qui n'ont pas les mêmes goûts que vous, qui n'ont pas les mêmes projets, qui n'ont pas les mêmes exigences, et qui vous serinent avec les connaissances à acquérir, etc., avec les bonnes manières. Mais c'est à cette condition-là que vous pouvez élargir vraiment votre horizon, vous projeter dans la vie, une véritable vie, pas simplement survivre, pas simplement vivoter, mais une vie en plénitude. Ben voilà, la grâce qui vous est faite, c'est de rencontrer des énigmes vivantes, des énigmes qui sont capables de renouveler votre vie, et en utilisant un vocabulaire religieux, je dirais qu'ils sont agents de la résurrection. Amen.